Les disques de légende, c'est la nuit sur Radio Classique.
Thank you.
disques de légende. C'est la nuit sur Radio Classique.
Thank you.
Trouvez toute la programmation de Radio Classique de Nuit sur radioclassique.fr.
Thank you.
Retrouvez Radio Classique de nuit, tous les jours à minuit, sur Radio Classique.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
L'invité de Comment j'ai réussi, Thomas Sema, fondateur de Wineuro. Bonjour.
Bonjour, merci pour votre accueil.
Et merci à vous d'être ce matin dans la matinale de l'économie. Vous êtes un spécialiste de la biométrie pour l'identification des personnes et vous avez développé une technologie qui permet d'authentifier un utilisateur grâce à une signature neuronale. Comment est-ce que ça fonctionne et à qui est-ce que ça s'adresse?
Exactement. Donc dans le monde de demain, on n'aura plus besoin de reconnaissance faciale, d'empreintes digitales, de scans d'iris et de rétine ou alors de mémoriser des centaines de passwords. Pour la faire simple, le Face ID a été pensé pour le téléphone, le Neuro ID pour les lunettes connectées et les écouteurs. Globalement, il nous suffira à partir de quelques sensors, de quelques capteurs neuronaux au sein des lunettes, d'authentifier un utilisateur. Donc on met la lunette, on est reconnu comme par magie, il n'y a strictement plus rien à faire.
Mais est-ce que c'est plus fiable, plus efficace que le Face ID, c'est-à-dire la reconnaissance faciale qu'on trouve sur les iPhones?
Alors c'est beaucoup plus efficace, c'est aussi beaucoup plus protecteur pour l'utilisateur, parce qu'on travaille sur une donnée qui est cachée, qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, avec les deepfakes, la generative AI, on peut falsifier les images, la vidéo, la voix. Alors que la signature neuronale repose sur la donnée neuronale qu'on ne voit pas, qui est cachée. Donc c'est beaucoup plus protecteur et également pour l'expérience utilisateur, il n'y a absolument plus rien à faire.
Mais qu'est-ce que vous détectez justement comme signaux neuronaux?
Alors globalement, notre cerveau est en perpétuelle activité. Et on a développé une intelligence artificielle qui est capable en fait d'extraire des patterns de reconnaissance qui sont uniques et propres à chacun. Grâce à cela,
c'est-à-dire des ondes qui sont émises par les impulsions électriques de notre cerveau.
Exactement. Ouais. Et notre IA, elle est capable en fait de façonner ce qu'on a appelé NeuroID pour être à même d'être authentifié en toute simplicité.
Donc la signature électrique de notre cerveau en quelque sorte. Est-ce que la multiplication des fraudes et les vols de données évidemment montre qu'il faut impérativement faire évoluer, sécuriser davantage ces techniques d'authentification?
Exactement, aujourd'hui c'est un constat, en fait on parle d'un marché de l'identité digitale qui est de 130 milliards, on va avoir près de 40 milliards d'objets connectés d'ici 2028, donc d'ici demain, et globalement en fait toutes les biométries traditionnelles peuvent être hackées. En fait c'est un constat fait par les plus grandes sociétés que l'on rencontre, que ce soit aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, et nous notre objectif justement c'est de créer des partenariats avec ces sociétés, toutes celles qui font d'électronique grand public pour intégrer le NeuroID et l'offrir à leurs utilisateurs finaux.
Aujourd'hui, le smartphone est devenu le maillon central pour beaucoup d'authentification. Est-ce que c'est pas un peu dangereux de dépendre d'un seul objet ou en tout cas de dépendre énormément d'un objet pour l'identification, sachant qu'il peut être piraté?
Exactement. En fait, c'est un véritable sujet. Et lorsqu'on regarde le marché, notamment on revient tout juste du CES de Las Vegas, on voit bien que les annonces n'ont pas été faites sur le smartphone, mais sur les lunettes connectées. Globalement, tous se lancent dessus. Et donc, on va retrouver nos applications favorites, que ce soit l'accès notamment à nos comptes bancaires, le fait de réaliser des transactions financières, demain avec nos lunettes. D'où l'intérêt de réinventer, en fait, un autre moyen de biométrie. Nous, on a misé sur la signature neuronale. Et globalement, ça marche vachement bien. On a énormément d'intéressés. Donc, on voit bien que ça va dans le sens de votre question et de votre analyse.
Alors, il faut néanmoins un objet pour capter justement ces signaux neuronaux. Vous parlez des lunettes connectées ou des écouteurs. Est-ce qu'on peut imaginer à terme des capteurs, par exemple sur un distributeur de billets, il suffit d'approcher son visage ou de caler son front pour que cette signature neuronale puisse être lue?
Alors, notre technologie nécessite de porter quelque chose.
D'accord.
Mais à vrai dire, c'est vrai que demain, en sachant que la lunette va devenir notre smartphone, y compris pour les personnes qui n'ont pas de problème de vue, et qu'on va retrouver nos applications, on pourrait penser une paire de lunettes connectées en Bluetooth à un outil autour de nous, notamment pour récupérer des billets, notamment payer en sans contact. En fait, on a un contact avec les capteurs neuronaux, mais on n'a pas de contact direct via une action de l'utilisateur, et d'être authentifié en toute simplicité.
Alors, vous dirigez une entreprise française. C'est important pour vous, la souveraineté dans cette activité, c'est-à-dire de ne pas dépendre d'autres pays pour être capable de développer des systèmes d'authentification?
Alors, c'est une question pertinente. Je pense qu'on peut être fier d'être français. On a les meilleures universités au monde. On a les meilleures écoles d'ingénieurs. Et on s'est entouré, aujourd'hui, on a une très belle équipe au profil rare d'une douzaine de personnes. Beaucoup se sont diplômés en France et à l'étranger. Mais globalement, aujourd'hui, on a un savoir-faire qui est unique. Et aujourd'hui, ben, si on peut répandre un peu de cette intelligence française, notamment de ce savoir-faire à la française, ben, ce serait un véritable honneur pour nous.
Après plusieurs années de développement, vous allez maintenant passer à la phase commerciale. Quelle est votre feuille de route ?
Alors globalement, nous, on a développé énormément de brevets pour protéger l'innovation. Donc là, aujourd'hui, l'idée, c'est bel et bien de créer du deal avec et des partenariats avec les acteurs du monde entier intéressés par la technologie. À chaque fois qu'il y a un constructeur qui souhaite offrir la technologie NeuroID à ses utilisateurs, ben, globalement, il passe par notre société WayNeuro. Donc on participe à un certain nombre de salons, comme NeuroIPS à San Diego il y a un mois, comme le CES de Las Vegas la semaine dernière, il y a un peu plus de, il y a 10 jours maintenant. Donc globalement, aujourd'hui, en fait, on rencontre énormément d'acteurs. Il faut pas oublier notamment que la technologie est dual use. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de consommateurs électroniques, d'électronique grand public, mais la technologie intéresse également gouvernement, défense, armée. Donc c'est un sujet ultra pertinent pour nombre d'acteurs.
Vous êtes en recherche d'investisseurs, vous avez lancé une levée de fonds, c'est quoi? C'est pour une phase d'amorçage?
Alors, on a un peu plus qu'un amorçage, parce qu'on n'est pas une start-up pour faire de la pure R&D. On a passé 2 ans et demi, 3 ans notamment de pure R&D avec mon équipe. Et aujourd'hui, on a enfin un produit qui a été testé par 70 000 personnes et sur 30 produits différents. Donc là, l'objectif de cette levée de fonds, qui est significative, malheureusement, je peux pas donner de montant exact, mais l'objectif, c'est de déployer enfin la solution sur le marché et donc d'embaucher des talents dans tous les domaines.
Merci beaucoup Thomas Sema, fondateur de WayNeuro, pour nous avoir présenté cette technologie des capteurs neuronaux.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Stéphane.
Ce matin, vous nous parlez pas vraiment de musique classique, mais de Beyoncé. Pourquoi Beyoncé?
Eh bien Stéphane, selon Forbes, Beyoncé a récemment franchi la barre du milliard de dollars de patrimoine, de fortune personnelle. Elle est ainsi devenue la 5e star de la musique à figurer dans le cercle des milliardaires du monde du spectacle. Alors c'est vrai que son parcours financier est exceptionnel, hein. Elle a connu des décennies de succès en solo, elle a fait des tournées monumentales qui ont généré plusieurs centaines de millions de dollars de recettes. Les revenus issus de son catalogue de droits d'auteur sont évidemment considérables. Et puis, comme souvent les stars américaine, Beyoncé ne se limite pas à la musique. Elle a capitalisé sur son nom pour lancer des activités comme une marque de soins capillaires, par exemple. Mais bon, ce sont ses tournées planétaires, ses albums et ses droits musicaux hein, qui forment le socle principal de sa fortune.
Oui, je crois qu'elle a aussi lancé un whisky, il me semble. Quels sont les autres musiciens milliardaires et comment est-ce qu'ils le sont devenus?
Il y en a très peu. Taylor Swift, bien évidemment, Stéphane, avec une fortune estimée à environ 1,6 milliard de dollars. Alors, Taylor Swift, hein, sa richesse repose exclusivement sur la musique elle-même, hein, sur ses tournées records, sur ses royalties, sur le streaming.
C'est d'autant plus spectaculaire.
Absolument. Jay-Z, le rappeur, milliardaire évidemment, il a bâti sa fortune en combinant musique, entrepreneuriat dans de nombreux domaines, hein, la mode, les spiritueux, les technologies, il investit dans divers secteurs. Rihanna, notamment grâce à son empire dans le secteur de la beauté et de la mode. Moins connue, hein, Selena Gomez, une part importante de sa fortune provient aussi d'activités annexes comme sa marque de beauté plutôt que de la musique seule.
Alors, votre chronique, Nicolas, parle d'innovation. Est-ce que les technologies jouent un rôle dans l'accumulation des revenus des musiciens?
Pas tant que ça, finalement. Hein. Les plateformes comme Spotify ont permis à des artistes d'irriguer le monde entier avec leurs chansons. En 2024, Spotify a versé plus de 10 milliards de dollars en royalties aux ayants droit, une somme sans précédent et qui sera sans doute dépassée en 2025. Alors, le streaming profite surtout à ceux qui cumulent des millions, voire des milliards d'écoutes, ou aux artistes qui disposent depuis longtemps d'un catalogue très étendu. C'est le cas là des artistes dont on parle ce matin. Par ailleurs, de nouvelles technologies financières comme la tokenisation des droits musicaux, hein, c'est-à-dire la découpe de droits en jetons numériques et leur vente, diversifient les façons dont les artistes peuvent monétiser leur travail. Mais en réalité, ce sont encore les tournées, les droits d'auteur bien gérés et les entreprises annexes qui expliquent la richesse des artistes milliardaires d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Nicolas. Beyoncé ou Taylor Swift?
Taylor Swift.
Radio Classique. rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour François Vidal.
Bonjour David.
Le feuilleton budgétaire approche enfin de son terme. Afin de faire adopter le budget 2026, Sébastien Lecornu va engager cet après-midi la responsabilité de son gouvernement.
Nous y voilà, après 4 mois de débats stériles et d'invectives, le pays va enfin se doter d'un budget. Le Premier ministre nous dit que c'est une bonne nouvelle sur l'ère du tout, plutôt que de basculer dans le chaos institutionnel d'une France sans loi de finances. Un discours auquel on adhère, évidemment, à condition de ne pas s'intéresser aux détails du texte. Car le compromis négocié avec le Parti Socialiste et le Sénat aboutit à un triple renoncement. Une réduction drastique des économies prévues initialement, l'ajout dans la dernière ligne droite de nouvelles dépenses sociales, et le tout au prix d'une pression fiscale accrue sur les entreprises par rapport à la copie d'origine. Sans même parler de l'abandon de la réforme des retraites, ce sont tous les curseurs responsables de la dégradation des comptes publics qui sont poussés encore un peu plus loin.
Et le président du MEDEF, Patrick Martin, a donc raison de dire dans les Échos ce matin que c'est le choix du court terme.
Mais c'est en tout cas aux producteurs de richesses, c'est-à-dire les entreprises, que l'on va demander l'effort le plus important, et pas uniquement aux grands groupes, à travers le maintien de la surtaxe temporaire d'IS, mais à l'ensemble des sociétés, puisque la baisse d'1 milliard promise sur les impôts de production est passée aux oubliettes. De quoi peser sur la compétitivité de toutes les entreprises et réduire leurs perspectives de croissance pour cette année, mais pas seulement, car personne n'imagine que le prochain budget, celui de 2027, qui sera débattu en pleine campagne présidentielle, pourra marquer un retour à la discipline budgétaire. Nous sommes donc partis pour 18 mois de statu quo au minimum, de quoi plomber durablement l'économie française.
Et c'était François Vidal pour l'éditorial avec les Échos qui titre « Un an après, le monde selon Trump ». L'opinion, quand elle lui parle du budget de tous les renoncements, quant aux Parisiens, il se demande qui va payer la note.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Karine Charbonnier.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Classique. Sébastien Lecornu va finalement utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter son budget 2026. Le texte final est loin de l'objectif initial en termes de mesures d'économie. Il est loin aussi de ce qui était prévu au départ en matière de pression fiscale pour les entreprises et pour les investisseurs. Vous êtes une ancienne chef d'entreprise. Vous connaissez les réalités de terrain. Quel est votre sentiment ce matin ?
Oh, c'est une très grande inquiétude parce que la séquence des derniers mois a été une valse des démagogues, des idéologues qui ont répondu des contre-vérités pour préparer la taxation des entreprises qui sont devenues avec les investisseurs des entreprises les boucs émissaires. C'est quand on est paresseux, on trouve un bouc émissaire, on dit que c'est la solution magique et que tout ira bien. Et le réveil va être une immense gueule de bois. Dans les contre-vérités qui ont été évoquées, ça me paraît important de rappeler qu'il n'y a pas eu 200 milliards de cadeaux aux entreprises. C'est une contre-vérité totale. Les 200 milliards, c'est des baisses de TVA, des prêts, c'est plein de choses, mais pas des cadeaux. Au contraire, si on se compare à nos voisins européens, les entreprises payent 120 milliards de plus que leurs voisines. Donc s'il y a des cadeaux, c'est bien dans l'autre sens. Et donc faire croire aux électeurs que c'est en taxant plus qu'on va créer de l'emploi, qu'on aura de l'investissement, c'est grave.
Est-ce que vous avez le sentiment que le débat budgétaire a réellement été mené avec des arguments économiques ? Le président du MEDEF, Patrick Martin, parlait il y a quelques jours d'une cuisine politicienne qui accable les entreprises pour flatter l'opinion.
C'est exactement ce que je viens de dire. Je pense que les députés sont en pleine démagogie électorale, ne veulent pas avouer qu'ils sont incapables de trouver des solutions pour redresser notre pays. Et voilà le résultat aujourd'hui. Et c'est très très inquiétant. J'ai lu la lettre aux entrepreneurs de Monsieur Lecornu, qui nous dit que il est vraiment désolé d'avoir renoncé à la baisse de la CVAE, mais que grâce à ça, on évite la réduction des allègements sur les charges sociales. Je répète que les allègements des charges sociales, c'est de l'impôt déguisé en France, c'est pas de la cotisation sociale. Et avoir découvert qu'on avait envisagé de supprimer ou de réduire les allègements sociaux, ça n'a fait que accroître mon inquiétude sur l'avenir de l'économie française.
La CVAE, on le rappelle, c'est l'un des principaux impôts de production en France. Dans le débat budgétaire, on a entendu un peu tout et n'importe quoi. Certains députés, notamment, ont comparé une taxe de 2% sur les actifs des holdings avec une taxe de 20% sur les bénéfices des entreprises aux États-Unis.
pour tenter de nous expliquer au final que les entreprises étaient moins taxées en France qu'aux États-Unis. En réalité, les actifs d'une société n'ont absolument rien à voir avec les bénéfices, ce n'est pas la même chose. Comment est-ce qu'on explique qu'une partie de la classe politique ait aussi peu de connaissances en matière d'économie ?
Alors effectivement, Philippe Brun, ce week-end, sur France Info, a à nouveau dit qu'on devrait se réjouir que 2% c'était rien comparé à 20% de taxes sur les dividendes, enfin sur les résultats aux États-Unis. Pourtant, Monsieur Brun est quelqu'un qui est parfaitement éduqué. Donc, soit il n'est pas allé lire les textes américains, soit c'est de la manipulation. Entre incompétence et manipulation, je n'arrive pas à me décider, mais c'est extrêmement grave. Parce que le résultat, c'est qu'à la fin, on n'aura plus que des investisseurs étrangers dans notre pays. Que tout. Parce que la fameuse taxe Duckman ou la taxe holding préparée par le gouvernement, par les fonctionnaires de Bercy qui ont eux-mêmes dit qu'ils s'inspiraient de la taxe américaine. Donc même Bercy est manipulateur dans ses propos. C'est une attaque sur les investisseurs français spécifiquement. Donc ça veut dire qu'on ne veut que des investisseurs étrangers dans notre pays.
Mais vous avez l'impression que le débat a surtout été mené par des idéologies plutôt que des arguments économiques. En France, l'idée d'aller faire les poches des plus riches plaît au plus grand nombre. Et ça, depuis pratiquement toujours, était comme ça.
Ben oui, ben c'est la technique du bouc émissaire. C'est très confortable le bouc émissaire, c'est la baguette magique. Ça marche aussi bien à l'extrême droite que tout l'arc de gauche, hein, puisque Monsieur Brun du Parti socialiste, que de Monsieur Lombard aussi ce week-end, notre ministre du budget. Tout le monde rentre là-dedans pour masquer son incompétence.
En France, on dit souvent que la population n'a pas une culture économique très très développée. C'est votre sentiment également ? C'est pour cette raison que tout ce qu'affirment les députés passe facilement dans l'opinion ?
Je me souviens plus bien, mais il me semble que j'ai lu des études internationales. Probablement que c'est testé dans PISA. La culture économique des Français est nulle. Elle est enseignée, je pense, de manière partisane. Il n'y a qu'à lire les livres scolaires. Et c'est grave, voilà le résultat.
Oui. Le gouvernement a beaucoup insisté sur la nécessité d'avoir un budget. Pour autant, est-ce qu'il fallait accepter un budget à n'importe quelle condition ? La Belgique, l'Espagne notamment, ont fonctionné pendant des mois, des années, sans budget, sans pour autant que ce soit la catastrophe.
Oui, et je me souviens, puisque je suis frontalière de la Belgique, j'avais suivi l'année où il y avait eu 13 mois, je crois, sans budget. C'était l'année où la Belgique avait eu la plus forte croissance européenne. Donc,
et l'Espagne voilà, actuellement affiche la plus forte croissance européenne également. Ouais. Est-ce que vous pensez que ce serait finalement salutaire que le gouvernement soit censuré ? Ou est-ce que la raison l'emporte et il nous faut malgré tout un budget ?
Moi, mon état d'esprit, c'est qu'à la lumière des débats qu'on a eus au Parlement, voire même au Sénat, dans les médias, quand France Info ne reprend pas Philippe Brun quand il dit que 2% c'est rien par rapport à 20%, je me dis que je suis très inquiète pour ce qui va sortir de la prochaine présidentielle, parce que le travail de pédagogie à faire pour préparer les prochaines élections, pour avoir une ambition raisonnable de remettre notre pays dans une dynamique économique pour le bien du pouvoir d'achat, de l'emploi, c'est pas pour les patrons, c'est pour tout le monde. Il faut comprendre ça, parce que on dit les patrons, mais les patrons, c'est quoi ? C'est les entreprises, et les entreprises, c'est tout le monde. Et je pense qu'on est très loin. Donc, très sincèrement, entre Caribe et Silla, je ne sais pas.
Je vous sens totalement désabusé, abattu. Est-ce que la France est condamnée à aller dans le mur ? Est-ce que dans ces conditions, on ne peut pas réformer ce pays ?
Il faut que... Parfois, je me dis... Parce que ça fait des décennies que les entreprises françaises sont totalement surtaxées. Et parfois, je me dis, l'économie française, c'est devenu un magasin de porcelaine extrêmement fine qui est prête à casser parce qu'il n'y a plus de chair, il n'y a plus rien. Et on a des éléphants, là, dans le magasin de porcelaine qui sont prêts à tout casser, alors qu'on devrait avoir des adultes dans la pièce.
Merci beaucoup, Karine Charbonnier, pour votre témoignage ce matin. Ancienne chef d'entreprise, investisseuse et membre du collectif Trop, c'est trop.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Christian.
Bonjour David.
Nouvelle surprenante, pour ne pas dire incroyable, Vladimir Poutine a été contacté par l'administration Trump, qui lui-même a confirmé ce matin, pour faire partie du Conseil de la paix qui va présider à la reconstruction de la bande de Gaza. Le reste du casting, on va appeler ça comme ça, de cette nouvelle organisation, est tout aussi stupéfiant. D'abord, parlez-nous de ce Conseil de la paix. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça va servir ?
Eh bien, le Conseil de la paix, présidé par Donald Trump en personne, doit se penché sur le renforcement des capacités de gouvernance, les relations régionales, la reconstruction, l'attraction des investissements, le financement et la mobilisation des capitaux, tout cela afin d'œuvrer à la reconstruction de la bande de Gaza. Mais là où tout change de dimension, c'est que plusieurs dirigeants étrangers ou d'éminents conseillers de ces derniers ont déjà reçu une invitation de la part de l'administration Trump pour rejoindre ce Conseil de la paix. Et parmi ces personnalités internationales, on compte le Premier ministre de l'Albanie, le président argentin Javier Milei, le président brésilien Lula, le Premier ministre canadien Mark Carney, mais aussi le président turc Recep Tayyip Erdogan, le roi de Jordanie Abdallah II, Madame Meloni, Viktor Orban, qui a dit oui d'ailleurs tout de suite, mais il y a aussi le Premier ministre vietnamien Mohamed VI, le roi du Maroc, bref, le roi du Maroc qui lui-même a accepté. Le casting est très vaste et, comme on peut le voir, malgré des exceptions comme Lula, il s'agit souvent de profils proches du courant autoritaire cultivé par Donald Trump.
Alors, il y a ce Conseil de la paix et puis il y a deux autres entités, Christian.
Oui.
À quoi vont-elles servir ?
Alors, il y a d'abord le Comité palestinien de gouvernance, qui est un organe technocratique qui vise à superviser le rétablissement des services publics essentiels à Gaza. Et puis, ce conseil est composé de 15 personnalités et présidé par un ancien vice-ministre palestinien, Ali Shaat. Et puis, il y a l'Executive Board, qui est la troisième entité à Gaza, qui doit contribuer à soutenir une gouvernance efficace.
Alors, il y a ce conseil de la paix, mais la surprise du chef, si j'ose dire, c'est qu'il a une vocation qui va bien au-delà de Gaza. Et c'est ça qui est le plus préoccupant.
Alors, c'est ça qui est le plus frappant ce matin dans cette initiative de Donald Trump, c'est que Donald Trump veut créer, au-delà de Gaza et à partir de Gaza, un conseil de la paix, si j'ose dire mondial, complètement à sa main pour œuvrer à la résolution des conflits dans le monde en concurrence avec l'ONU. Alors évidemment, Donald Trump serait le président, le premier président du conseil de la paix, dont les pouvoirs sont très étendus, puisque Trump serait le seul habilité à inviter d'autres chefs d'État et de gouvernement à l'intégrer. Il pourrait aussi être le seul à révoquer leur participation et leur participation dépend de conditions pour le moins choquantes, d'après ce que l'on sait. Parce que une indiscrétion nous a permis d'apprendre qu'un document de 8 pages établit le fonctionnement, la charte, si l'on peut dire, de ce Conseil de la paix. Et qu'apprend-on ? Que ce Conseil de la paix, on pourra y adhérer en tant que membre permanent à condition de verser $1 milliard. Sinon, on pourra y participer en tant que membre temporaire, sachant que le mandat ne dépassera pas 3 ans. Donc, payer pour être un membre permanent et sinon, passer son chemin au bout de 3 ans en étant un membre temporaire.
C'est comme un club de golf de luxe.
Oui, c'est un mélange de copies révisées de l'ONU et de clubs de capitalistes. C'est quelque chose d'extrêmement hybride. Alors, d'ores et déjà, il y a des pays, je le disais tout à l'heure, qui ont accepté, ou des personnalités, comme le roi Mohamed VI du Maroc, comme Viktor Orban en Hongrie. Mais la France ne participera pas. Le Canada a accepté de participer, mais sans verser $1 milliard. On est là dans une sorte de confusion incroyable. Et c'est typiquement trumpien d'avoir une nouvelle fois complètement changé les règles, renversé la table et brouillé les cartes.
Ce que je retiens aussi, c'est cette bifurcation entre les ambitions politiques de Trump pour Gaza et les ambitions de Benjamin Netanyahou. Là, il y a séparation.
Oui, il y a clairement divergence parce qu'Israël, avec ce Conseil de la paix, perdrait la maîtrise exclusive qu'il a sur Gaza et ça ne convient pas du tout à Netanyahou.
Christian Macarian, l'écho du monde, affaire à suivre avec ce Conseil de la paix. Notez, Christian, qu'à 8h15, je recevrai Philippe Etienne, ancien Sherpa du président de la République et ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Il publie Le Sherpa, mémoire d'un diplomate aux avant-postes de l'histoire chez Talendier. Dans un instant, le journal imprévisible.
Radio Classique, le journal imprévisible.
avec Marc Bourreau à 7h49. Bonjour Marc.
Bonjour David, bonjour à tous.
Fiscalité, charges, incertitudes, les patrons vent debout contre les arbitrages budgétaires à quelques heures de leur adoption à l'Assemblée nationale. Colère du MEDEF, parallèlement 2000 chefs d'entreprise ont lancé leur mouvement apolitique. Trop c'est trop. On en parlait avec la voix dans les voix de l'économie à 7h15. Quand les patrons se rebiffent, une histoire qui ne date pas d'hier.
Eh oui, côté pile, il y a la lune de miel, David. Belle comme un pin's, 1 million d'emplois offerts par François Hollande au président du MEDEF, Pierre Gattaz.
1 million d'emplois, aujourd'hui, symbolisés par ce pin's que je porte à la boutonnière.
Belle comme des déclarations d'amour du ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
C'est vous qui allez la construire, cette France juste et cette France fière. Vous êtes, vous, entrepreneur, une de mes raisons d'espérer dans la France.
En passant par Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron ou encore ce premier ministre, Manuel Valls, souvenez-vous de cette formule célèbre il y a 10 ans.
J'aime l'entreprise. J'aime l'entreprise.
Je vends des robes, des pulls et des manteaux, des bas, des gants, des jupes, des pantalons.
Et pourtant, côté face, quand ça va mal, les entreprises se rebiffent. Ou plutôt, les petits commerçants. Bien avant les bonnets rouges en Bretagne et la révolte des pigeons en 2013, il y avait 60 ans plus tôt la révolte de Saint-Céré dans le Lot.
D'apparence, c'est le type même du français moyen. Brun, avec des yeux clairs, il a 34 ans, une famille et 4 enfants. Les mots de liberté, de fraternité, de patrimoine, de maire de France ponctuent ses propos.
1953, David, un papetier réunit artisans et commerçants sous la bannière transpartisane du ras-le-bol fiscal. Son nom, Pierre Poujade.
Devant le contrôleur, le percepteur, ce n'est pas un communiste ni un RPF, ce sont deux tendus.
Poujade, populiste, anti-parlementariste, nationaliste, une fronde et un parti Union et Fraternité Française qui envoie 52 députés à l'Assemblée, parmi eux un jeune débutant du nom de Jean-Marie Le Pen.
Je vous ai dit, nous rentrerons au Palais Bourbon, nous secourons le cocotier. Est-ce que nous ne l'avons pas secoué, le cocotier ?
La riposte des petits commerçants crée nos coups de poing quelques décennies plus tard. Dans les années 70, des centres d'impôts, de l'assurance maladie et même des supermarchés sont carrément pris pour cible par les travailleurs indépendants du site du Nati.
Une épaisse colonne de fumée se dégageait derrière l'hypermarché. Des manifestants avaient mis le feu dans une réserve de cajou à l'extérieur de l'édifice.
À la tête du mouvement, Gérard Nicou, tenancier d'un bar-restaurant dans l'Isère. Plusieurs passages devant la justice, plusieurs passages aussi à la télévision.
Il n'y a pas de différence entre le petit commerçant de gauche et le petit commerçant de droite. Pour moi, il y a des commerçants et des artisans qui souffrent.
Et ça peut aller jusqu'où ?
Très loin.
5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République.
1980, la France passe à gauche. Alors faut-il ouvrir le dialogue ? Les chefs d'entreprise sont partagés. Faut-il tendre la main, même un peu ferme, comme l'entrepreneur star des années 80, Bernard Tapie ?
Il n'y a rien de plus redoutable de vivre dans un système capitaliste avec des gens qui ne le sont pas. Si vous ne l'acceptez pas, c'est dire à un sportif, tu vas courir dans l'absolu, mais surtout le chronomètre, ça ne t'intéresse pas.
Ou bien faut-il passer la vitesse supérieure, comme l'ancêtre du MEDEF, le CNPF.
La réunion historique de ce jour n'est pas une manifestation politicienne.
Décembre 82, face aux nationalisations, à la hausse de la fiscalité, le patronat et son leader Yvon Gattaz réalisent un tour de force. 20 000 personnes rassemblées à Villepinte, 1 mètre carré par participant, la salle pleine, a craqué pour lancer la fronde des forces vives.
Nous demandons pour nos entreprises la liberté des prix et des salaires, la liberté d'innover, d'exporter, d'importer, en un mot, la liberté de vivre.
20 000 personnes à Villepinte. Qui dit mieux ? 25 000 en 99 au Parc des Expositions à Paris. Dans le collimateur, cette fois, les 35 heures. Cette mesure qui avait fait bondir le président de la CNPF de l'époque, Jean Gandois.
Nous avons été bernés tout au long de la journée. Il va sans dire que nous avons perdu une bataille, mais que nous n'avons pas perdu la guerre.
Et pousser son successeur, Ernest-Antoine Sellière, à faire un constat plutôt amer.
Vous savez, le CNPF, de toute manière, ne dispose que d'une petite épée de bois. C'est une organisation qui n'a absolument aucun pouvoir quand on le compare à celui de l'État, qui a tous les pouvoirs, ou même celui des syndicats, qui, eux, peuvent bloquer les services publics.
Y aura-t-il une fronde ? D'où partira-t-elle ? Des artisans commerçants ou du MEDEF, malgré son échec à mobiliser l'automne dernier ? Quand les patrons se rebiffent, David, ce sont des épées de bois et quelques épées de Damoclès.
Ma petite entreprise connaît pas la crise.
Marc Bourreau, son journal imprévisible à retrouver sur l'application Radio Classique. À suivre, David Barou, on parle encore d'économie. David qui évoque les défaillances d'entreprises et les chiffres ne sont pas bons.
Radio Classique. rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour David.
Bonjour David.
Les chiffres des défaillances d'entreprises sont tombés et ils sont inquiétants.
Bah oui, ils sont sans appel. Pour la troisième année consécutive, en 2025, le nombre de défaillances a non seulement progressé, mais il s'est aussi installé très au-dessus de notre moyenne historique. La France enregistrait environ 55 000 défaillances par an il y a quelques années. Elle se rapproche désormais de la barre des 70 000, une marche haute a été franchie. Alors, on peut se rassurer en se disant que les généreuses aides financières accordées sous forme de PGE et de report de charges sociales pendant et un peu après le Covid ont joué un rôle d'anesthésiant. On a retardé des chutes qui étaient inéluctables et qui arrivent maintenant depuis 2-3 ans. On peut aussi minimiser l'importance du phénomène en reconnaissant que les cessations d'activité concernent avant tout les auto-entrepreneurs et impactent donc relativement peu le marché de l'emploi, car ce sont plein de toutes petites entreprises qui risquent de mettre la clé sous la porte. Mais bon, il faut quand même être lucide et ne pas se voiler la face.
Pourquoi la situation est grave selon vous ?
Non seulement la marée des entreprises en difficulté monte, mais en plus elle touche de plus en plus de secteurs dans de plus en plus de régions. Les métiers de service qui sont les plus nombreux dans notre économie sont les plus touchés, mais l'industrie qui est cruciale est loin d'être épargnée. Sur la période 2019-2025, le nombre de défaillances dites industrielles a bondi de plus de 40%, et surtout, les experts notent qu'il y en a deux fois plus que le poids de l'industrie dans notre économie. L'industrie souffre proportionnellement plus. On note aussi de plus en plus de problèmes chez les PME, les ETI, les entreprises de taille moyenne qui grandissent. Paradoxalement, cette dégringolade ne semble guère pour l'instant impacter la France au niveau macroéconomique. Vous le savez, en 2025, notre croissance a approché les 1%. On fait mieux que le plus 0,2% en Allemagne, par exemple. Malheureusement, cette performance, entre guillemets, relative, tient, je pense, à de mauvaises raisons. Si on va un peu mieux, c'est parce que nous sommes déjà en grande partie désindustrialisés et que c'est avant tout l'industrie qui souffre de la concurrence chinoise et d'un contexte économique global pas très porteur. Nous, on est surtout une économie de service qui, par nature, est bien plus résiliente, encore plus dans un pays comme le nôtre disposant de nombreux amortisseurs sociaux. Mais la faiblesse d'aujourd'hui risque de nous priver d'un indispensable carburant demain. Si les auto-entrepreneurs ou les PME ne grossissent plus et si l'industrie continue de se déliter, franchement, on peut se demander que va-t-il nous rester.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
L'heure de retrouver Guillaume Tabar pour l'éditorial avec le Figaro. Juste après, je recevrai Philippe Etienne. Il publie le Sherpa, mémoire d'un diplomate aux avant-postes de l'histoire. Il a été, entre autres, le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron et ambassadeur de France à Washington et aussi en Allemagne. Vous saurez tout dans un instant. Mais pour l'heure, je dis bonjour.